observation d'ordre général. Vous avez récemment débattu avec Tariq Ramadan de la religion dans les révolutions arabes. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit par vous, c'est-à-dire incompatibilité de l'islam et de la laïcité. Et Tariq Ramadan avait dit que la marche vers la démocratie ne doit pas se faire en opposition avec le terreau culturel. Ce débat nécessiterait des heures, d'autant plus que l'islam fait face à beaucoup et de nombreux défis. Alors la question que je voudrais vous poser, elle est simple. Quels seraient, selon vous, les risques du dérapage du printemps de Tunis et des autres révolutions, hein? Et une question subsidiaire, le silence assourdissant des intellectuels devant les dictatures pendant plus de 3 décennies en Tunisie et dans le monde arabo-musulman.
J'ai 2 questions, une concernant le passé et une concernant l'avenir. Vous avez dit vous-même que vous apparteniez à ce groupe qu'on a appelé les éradicateurs. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que maintenant que les choses se sont passées et qu'on sait qu'il y a eu 200 000 morts en Algérie, est-ce que vous justifiez l'interruption du processus électoral en Algérie? Est-ce que les choses n'auraient pas pu se passer à moindre frais si on avait laissé les islamistes arriver démocratiquement au gouvernement et en comptant sur la résistance éventuelle des populations ensuite? La deuxième question concerne l'avenir. J'ai entendu que vous faisiez de grosses réserves sur les débats dans la commission où il y a environ 150, si je ne me trompe pas, partis, associations actuellement en Tunisie. Ils ont obtenu au moins, vous avez rappelé avec justesse que la parité, telle qu'elle n'existe même pas en France et nulle part ailleurs, d'ailleurs, va exister, j'espère, en Tunisie. Ça sera un exemple pour le monde entier, j'espère, pour notre pays. Et ceci dit, sur la constituante, je pense que vous n'avez pas raison, parce que ça me paraît quand même difficile à admettre, même si la constitution, comme vous l'avez dit, est super laïque, bien faite, et issue de la 3e ou de la 5e République peut-être aussi, je pense qu'un peuple qui mène une révolution a parfaitement le droit, et l'exemple en France quand même, il est parlant, et ailleurs aussi, sans la terreur, bien entendu, a parfaitement le droit de se donner un nouveau pouvoir constituant et d'envisager l'avenir, bien sûr, sur la base des leçons du passé. Donc là aussi, je n'arrive pas tout à fait à vous suivre dans les réserves que vous faites. Mais j'observe quand même qu'il y a eu un débat en Tunisie et que, fort heureusement, l'élection présidentielle aura lieu après l'élection législative, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Sinon, on serait un peu dans un système à la 5e République française.
Alors, l'occidentalisation. Je n'ai que 30 secondes de prise de parole, on va me demander directement une question.
Oui, mais c'est parfait. Vous avez été très clair. Plus c'est froid, plus c'est clair. Oui, on est dans ce processus. On est dans ce processus inéluctablement. Alors, tout en Algérie, c'est la très grande question, c'est-à-dire où, quand on commence la Algérie, il y a la question de l'information, il y a la crisserie face à l'image. C'est toujours ambivalent.
Technofascisme.
Non, pas forcément. Il y a les deux.
Comment vous maniez?
Ben écoutez, là, par exemple, je ne sais pas où il y a eu... je vous donne l'exemple de cette image qui est une production sauvage de la plus belle... celui qui l'avait fait, un très grand vidéaste, sans le savoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a tellement circulé dans le monde arabe. Ce Tunisien qui, le 14 janvier, on découvre par la suite que c'était un avocat, il aurait pu être qui sort la nuit en plein couvre-feu vers 11h du soir, minuit, et qui se met à danser comme s'il était un funambule a titubé, en un, c'est-à-dire qu'il était dans une jubilation et ivresse qui faisait qu'il avait une difficulté à garder l'équilibre et à scander et chanter la Tunisie est libre, la Tunisie est libre, le dictateur s'est enfui, le dictateur a pris la fuite, vive la liberté, la Tunisie est libre, et vous ne pouvez pas imaginer l'effet considérable qu'a eu cette image. Et le fait qu'elle ait été, par exemple, le soir même, c'était pas évident, vous savez, du tout. Tous les services secrets, la CIA, le Mossad, tous disaient « Ah, mais ce qui est arrivé, là, le 14 janvier en Tunisie, jamais il n'arrivera en Égypte. L'Égypte est très solide. » Et dès le 14 janvier, cette image a été prise dans la blogosphère égyptienne. Et elle est devenue l'image de la mobilisation de toute l'Égypte. Parce que dès le 14 janvier, il y a eu l'appel pour la manifestation du 26 janvier. Oui. Cette manifestation qui a été énorme et qui a été donc le point de départ de cette séquence qui va aboutir le 11 février. Et contre toutes les prévisions de tous les experts, de tous les services secrets, ce qui s'est passé le 14 janvier en Tunisie, s'est passé le 11 février en Égypte. Parce que quand Moubarak tombe, c'est autrement plus considérable d'un point de vue géopolitique, vous le savez. Et là, l'image est la contribution. Est-ce du technofascisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'interroge. Alors, donc, toutes ces questions-là...
La complicité de l'Occident.
Toutes ces questions-là, vous savez, l'instrumentalité, tout ça est un chantier. On ne peut pas décider de la vérité de toutes ces questions-là. Regardez la technique, par exemple, d'Internet, il y a derrière tout ce que vous dites.
Oui.
Il y a derrière tout ce que vous dites.
Ça n'est pas
c'est abominable, les finances, vous dites que ce n'est pas gratuit, mais on peut l'utiliser gratuitement.
Non, non.
Ou bien même, il ne serait pas gratuit.
Non, l'énergie n'est pas gratuite. Ah, jamais.
Alors, où va la Tunisie? Où va la Tunisie? Oui, mais vous savez, je ne suis pas prophète, je me trompe très souvent en politique. Alors, vous savez, je ne suis pas. Mais j'ai le sentiment qu'elle peut aller dans le bon sens. Hein? Le bon sens, c'est un processus qui nous conduirait vers une démocratie, c'est-à-dire une société qui accepte le débat, qui accepte la controverse sans se trucider, qui entre dans le conflit. Violent décidé sans parvenir aux armes, à la violence des armes, la liberté, vous savez, un très beau passage de Tocqueville dans la démocratie en Amérique, où il dit « J'ai vu en Amérique l'égalité s'incarner en personne vivante. C'est le signe de la modernité et de l'ère démocratique. » Moi, j'ai vu, en tous les cas, et j'espère que ça restera, que ce ne sera, ça appartiendra pas seulement à ce temps d'euphorie, qui connaîtra peut-être un temps d'abattement après, j'ai vu en Tunisie la liberté s'incarner en personne vivante. Et j'y ai vu le signe d'une modernité et le signe de l'avènement de la démocratie dans ce pays. J'espère que je ne serai pas trompé. Alors, donc, dans le même état d'esprit, il y a un risque de dérapage, je répondrai à cela. En effet, il y a 30 années, je veux dire, cette manière de s'accommoder avec des dictatures laïques. C'est la grande question. C'est vraiment la grande question. Laïque et pas seulement autant de mots qui marquent. Et vous savez, maintenant, on a presque pas le droit de le dire. Moi, je l'ai dit, je l'assume dans le livre, parce que je le dis d'autant plus tranquillement, même si mes ennemis disent que j'étais l'enfant chéri du régime de Benarini, on trouve ça sur Internet, c'est comique de voir ça, je n'ai pas fait un pas avec ce régime, je n'ai jamais été collaborateur de ce régime, ni de près ni de loin, je le promets ici, je m'en accommode, c'est un fait. Je n'étais pas le seul, on est dit ainsi. Pourquoi? Pour une raison simple, même si à la fin ça devenait proprement irrespirable, la charte de santé de plus en plus. Mais quelque chose d'énorme qui était présent en Tunisie, la liberté des mœurs. On n'a jamais touché à la liberté des mœurs en Tunisie.
À des
il n'empêche que c'est là, et que ça donne une raison d'être et de vivre. la question des femmes, l'égalité des femmes, la liberté des femmes, le renforcement juridique en faveur des femmes, entamé par vos débats, a été renforcé, a été approfondi à l'époque de la guerre de nouveau à dessein, peut-être. Mais il y avait des logiques. Je me dis, attends, cette espèce, ce n'était pas seulement un argument, la guerre contre l'islamisme. C'était dans les faits, c'était dans la liberté des mains, c'était dans le renforcement de la question juridique à propos des femmes. Et l'éducation, le troisième point. Beaucoup d'amis de ces jeunes dans le la blogosphère, qui m'avaient confirmé lorsque je m'avais avancé l'idée de chercher, de créer justement une école qui produirait, ils me disaient, en effet, ce qu'on apprenait à l'école, on sortait dans la rue, on trouvait qu'il y avait une incohérence insupportable. Vous savez qu'il y avait des cours de 3 heures à l'intérieur même de l'école tunisienne.
Et la torture dans les commissariats.
Oui, la torture dans les commissariats, d'accord, mais je veux dire, c'est cette incohérence qui a amené les jeunes à se mobiliser. Le fait que ce qui a été enseigné à l'école n'était pas perceptible dans la rue. Donc il y a cet aspect-là, et il y avait des temps, encore une fois, où, je vous ai dit, il y avait le peur et le danger islamiste qui était... Et un autre élément. Vous savez, il faut voir comment tout a évolué, comment la Turquie a évolué. Nous avançons ensemble. Le traumatisme de tous les amis iraniens, d'Ali Shayan, par exemple, le philosophe, un très grand ami, qui est venu 20 fois en Tunisie, et qui était initié, en tous les cas, à ses débuts, dans les années 89-90, la Tunisie, son bénin par rapport à l'abomination de la République islamique, et qui disait tout le temps, faites très attention, j'ai contribué à la chute du Shah, je le regrette terriblement. Pourquoi? Parce qu'avec le Shah, on était dans une dictature qui procédait d'une tradition despotique propre à l'État à minima. Avec l'islamisme comme idéologie de combat, on n'est plus dans une tradition religieuse, on est dans une idéologie qui produit un État totalitaire. Et on est passé d'une dictature d'un État à minima à une dictature d'un État totalitaire. Qui fait, qu'est-ce qu'un État totalitaire? Des interventions dans tous les champs et dans tous les lieux. Et autre chose d'amusant dans cet esprit-là, je me disais à l'époque, parce qu'il y avait aussi cette idée des États autoritaires éclairés, destinés à procéder à une modernisation à pas forcée. De ce point de vue-là, Atatürk, le Chagrin, Bourguiba, le combat. Et pour ce qui concerne Atatürk et Bourguiba, il y avait un autre élément qui vient de la tradition française, dans les deux concepts de république et de démocratie.
Atatürk était brutal.
On met en premier la république. Et lorsqu'on met en premier la république, comme ça a été le cas en Turquie, comme c'est le cas en Tunisie, c'est au détriment de la démocratie. Et donc, ça crée des États totalitaires qui procèdent à la modernisation par le haut. Mais ces modernisations à la Atatürk et à la Bourguiba ont réussi à transformer la société. À transformer la société d'une manière, je veux dire, c'est pas un truc plus cher payé que dans les pays communistes, là, vous savez. C'est loin d'être plus cher payé, bien au contraire. Bien au contraire. C'est à être moindre fait.
Ça n'excuse rien. Le pardon est
cela pas de soi. Mais la grande opération qu'a menée Recep Erdogan, c'est justement d'avoir inversé les deux termes et d'avoir mis la démocratie en premier. Par exemple, à quoi? On est passé du modèle français, en fait, au modèle anglo-saxon, tout bêtement. Et le modèle anglo-saxon qui tient compte beaucoup plus de la diversité que le modèle qui met en premier la République. Et beaucoup plus uniformisateur. Ce sont tous ces considérants pour mettre en circulation le grand jeu. Et actuellement, nous sommes en train de tester d'être dans l'épreuve démocratique. Et l'évolution des intellectuels turcs va tout à fait dans ce sens-là. dans les discussions que j'ai avec Nils Abolé, par exemple, avec Antoine Mouf, avec Zinti Sattar, un politologue, un écrivain, un sociologue, on est, je veux dire, c'est un bouillonnement international, hein, on circule entre Maghrébins, Iraniens, Égyptiens, Turcs.
Nous avons encore le temps pour trois questions. Mes questions.
Le problème est énorme, et c'est ce que les Tunisiens réfléchissent beaucoup là-dessus pour l'éviter, parce qu'on s'est dit, mais là, si la situation n'est pas de même nature, mais il y a eu beaucoup d'articles qui réfléchissent sur 90-90 en Algérie. Beaucoup, en tout cas. Comment faire pour que ceux qui ne croient pas à la démocratie ne réussissent pas par les urnes à gagner. Et donc là, il y a le problème de la loi électorale. Et il y a le problème donc de la parade juridique en amont. Ce qui n'a pas du tout été fait en Algérie. Et nous avons un exemple très précis, que je cite d'ailleurs dans le livre, j'ai beaucoup discuté avec des amis allemands, des juristes allemands qui m'ont donné la référence, je ne suis pas juriste, donc je ne la connaissais pas, mais l'article 22, donc c'est l'alinéa A et B de la loi fondamentale 1947, est destiné à tenir compte de deux périls, du fait que Hitler est parvenu aux urnes en 1930 et parvenu au pouvoir à Hitler en 1932, donc comment éviter cela? Et là, les dispositions sont très très claires. Ne participe à la joute démocratique, à l'élection, que le parti qui met dans sa charte qu'il croit à la démocratie, à ses principes, à l'alternance, d'une manière absolument explicite, et qui fonctionne intérieurement d'une manière démocratique, avec des élections internes contrôlées par l'État, contrôlées par l'appareil judiciaire, à l'intérieur même des partis. Alors les dispositions comme celle-là, maintenant on dit dans les partis qui étaient déjà existants en Tunisie, et la plupart étaient dans l'opposition, ils ont dit une disposition comme celle-là inviterait tous les partis existants. Pour vous dire, donc voilà, la question du financement, d'où vient l'argent, les grandes clartés de ce type de terme, toutes ces questions-là doivent être traitées au préalable. Si ces questions étaient traitées au préalable, on ne serait pas parvenu à ce qui est arrivé à l'Algérie en 1992.
Trois questions, oui.
Vous dans votre hommage à la Tunisie, ce petit pays qui a provoqué une révolution dont les conséquences sont encore difficilement mesurables aujourd'hui. Je tiens à rendre hommage à tous ces morts qui, au prix de leur liberté, au prix de leur vie, sont en train de se battre aujourd'hui même pour ces libertés. Je voudrais aussi rendre hommage à tous les Tunisiens qui ont fait face à un flux de réfugiés énorme. Des dizaines de milliers sont arrivés aux frontières tunisiennes et ont été accueillis en Tunisie. Et je ne vais pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où tellement de personnes sont refoulées, noyées. Je me demande jusqu'à quand. Jusqu'à quel jour il y aura une politique, cette politique de sécurité sera réfléchie en termes de politique de solidarité.
Merci. On peut être d'accord avec vous, Madame Ferrand, une des tâches qui nous incombe tous, Tunisiens ou non Tunisiens, ici même, c'est d'aller vers des Tunisiens. Ils sont parvenus en ce moment des tout derniers livres et de faire tout pour les aider. La solidarité de ce point de vue-là se fait très concrète. Pardonnez-moi, je n'ai pas évoqué ce que vous avez dit. Je ne suis absolument pas contre, je suis fasciné par le travail de l'Assemblée, la 175, pas la 150, attention à vous. C'est-à-dire, c'est des précautions, des craintes qui peuvent être aussi dépassées, on s'adapte, on est mobile, vous savez, on n'est pas des dogmatiques du tout, loin de là. Et il est heureux maintenant, il y a un premier test dans cette évolution par laquelle tout le monde est en train de passer. Je veux dire, les islamistes tunisiens, les islamistes de Marre, jusque-là, ils paraissent impeccables. On va voir, c'est ça le problème. Donc, ils sont actuellement dans un discours incohérent, dans un discours intenable. Je crois qu'il me semble, hein, quand on analyse le débat que j'ai eu avec Marie-Ramadan, on perçoit cela. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'évolution, mais en même temps, il y a des irréconciliables qui veulent être inscrits à l'intérieur d'un même discours. Ça ne tient pas. Et ça, on le voit partout, partout. Les islamistes égyptiens, pareil, sont autrement plus importants, les frères musulmans. Ils vous parlent, oui, mais pas à n'importe quel prix. Vous savez, alors là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des négociations avec l'armée, tout ça, tout suivre dans les détails, soutenues et encadrées par l'Amérique et la CIA. L'idéalité pour l'Égypte, c'est de passer vers un pouvoir sous contrôle d'une république, totalement sous contrôle de l'armée, tel qu'était la Turquie il y a 20 ou 30 ans, où l'armée serait garante de la constitution, et pour apaiser l'opération, la décision et la négociation est là, et on le voit dans les faits. Vous aurez 40% de la chambre, on n'est pas dans des élections, donc des élections, donc vous aurez une majorité relative pour former un gouvernement d'union avec des gens qui ne pensent pas comme vous, aux islamistes, à la retraite des islamistes, à la condition de ne présenter personne à la présidence de la République. Il y aura un président de la République, donc qui serait un libéral du côté de l'armée, mais pas un islamiste. Ils ont accepté cela, ça se voit, ils ne présentent pas. Ils ne présentent personne aux élections présidentielles. Et en même temps, à la condition que vous changiez votre charte. Il n'est pas question que dans votre charte paraisse la notion d'État islamique. Et tout se parle maintenant de l'État civil, hein, on dit en arabe, d'Aouda Badaïa, d'Al-Majaïa islamien, c'est-à-dire un État civil islamiquement référencé, en insistant sur quelque chose qui me paraît énorme, parce qu'il est au fondement de mon travail, de toute mon œuvre. Donc, et quand on dit référence islamique, on ne pense pas à la religion, on pense à la civilisation. Ils font la distinction maintenant entre religion et civilisation. C'est pas... Et en même temps, ils vous disent qu'il ne faut pas toucher à la charia. Donc, d'entrée de jeu, on est dans un discours inopérant. Nous sommes dans cette page-là.
On va s'arrêter là, malheureusement. Je suis vraiment désolé, la librairie est encore moins du 18.